Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue à la 29e édition de notre cycle « Les Dor Vador », la musique hébraïque de génération en génération. Nous avons pris connaissance la semaine dernière de la magnifique première partie des cinq qui composent le service sacré ou « Sacred Service ». C'est ainsi que Bloch a appelé son œuvre pour la commande américaine qu'il a reçue, en 1933, et qu'il a sous-titré également en hébreu « Avodat HaKodesh ». Cette œuvre, une première dans le répertoire hébraïque, mais aussi dans le répertoire des concerts classiques, a vu le jour suite à une commande venue d'une communauté juive de la Californie, celle du Temple Emmanuel de San Francisco, et par les biais d'un de ses riches mécènes. Pour bien comprendre les multiples particularités qui caractérisent cette œuvre pionnière de Bloch, il faudrait faire plusieurs émissions pour analyser et expliquer en détail comment l'œuvre est construite et quelles sont ses diverses influences. Nous avons signalé avec Léo, bonjour Léo.
Bonjour.
Nous avons signalé donc la dernière fois, lors de notre dernière émission, une référence assez frappante que l'on y entend, est l'un des motifs les plus connus de Wagner, celui de la chevauchée de la Valkyrie. C'est comment, Léo, déjà ? Voilà. Bon, c'était pas tout à fait ça,
oui.
Mais un motif secondaire qu'on entend très bien et que les auditeurs peuvent entendre en podcast s'ils n'ont pas entendu le programme de la semaine dernière. Mais ceci n'est qu'un élément dans l'immensité d'événements musicaux que l'on entend tout au long de l'œuvre. Alors, pour ne pas rentrer trop dans les détails, mais saisir tout de même un peu l'esprit de ce que cette musique dégage, je vais demander à Léo de lire un commentaire que l'on découvre sur le site internet du Milken Archive of Jewish Music, une collection monumentale nord-américaine qui depuis quelques années se consacre à la diffusion de la musique juive composée en Amérique ou pour l'Amérique. Hein, ce qui est le cas de notre œuvre d'aujourd'hui, et que j'inclus dans mon livre. Écoutons Léo.
Pour composer son service sacré, Bloch s'est retiré au village de Ticino, j'imagine.
Ticino, oui.
Oui, Ticino, dans sa Suisse natale, pour y travailler. Il écrit, en parlant de la progression de son travail, « Cette composition est devenue une affaire privée entre Dieu et moi. Je bataille avec les notes, les sons, les rythmes, pour extirper en dehors de mon âme toute la musique inexprimée qui était latente, pendant des siècles, et qui a atteint ce merveilleux texte. Et pour mieux expliquer l'origine de son double dessein juif et universel, il ajoute « Bien qu'intensément juif dans ses racines, ce message me semble avant tout un cadeau d'Israël à toute l'humanité. »
Voilà donc en quelques mots le message essentiel de l'œuvre d'Ernest Bloch, qui ne parle pas seulement, comme il le dit, à ses coreligionnaires, mais à toute l'humanité, à partir des textes sacrés hébraïques, dont il découvre lui-même et partage les messages universels. Écoutons donc, dans la continuité de notre programme de la semaine dernière, les débuts de la seconde partie du service sacré d'Ernest Bloch, intitulé « Kedusha, sanctification ».
Shem shemakdishim oso bishemem oron Kalkosun vayar neriecho Vekara seze elamah
Voilà, nous venons donc d'entendre comment Bloch présente les débuts de sa deuxième partie du service sacré. Et dès le départ, avec quelques simples accords, tu as vu Léo, pendant qu'on écoutait la musique, on suivait la partition,
ouais.
Avec quelques accords assez simples, des accords majeurs, des accords mineurs, en alternance aussi avec quelques petites dissonances. Et donc Bloch introduit comme ça le thème du cantor exactement avec la même mélodie qu'on avait entendue au tout début de l'œuvre. Hein, c'est un autre texte, mais c'est la même mélodie. Comme je l'explique en détail dans mon livre sur la musique hébraïque, la nature de ce thème qui a une saveur tellement juive est paradoxalement un thème de musique grégorienne. Tout ce qu'il y a de plus catholique dans la musique occidentale. Et il s'agit d'une mélodie bien connue et souvent utilisée par de nombreux compositeurs, et comme par exemple... Franz Liszt ou Saint-Saëns, Berlioz, tous les compositeurs romantiques du 19e siècle ont, à un moment ou un autre, utilisé ces thèmes grégoriens. Et ils l'ont utilisé dans divers morceaux. Tu vois, Léo, cet extraordinaire paradoxe. Je vais donc, encore une fois, te demander à toi, Léo, de lire un autre extrait de mon livre où j'explique un peu l'origine de cet usage pour les moins curieux.
Dès le début de sa composition, Bloch arrive à créer une formidable unité thématique et une magistrale cohérence, tout en partant d'un thème musical extrêmement simple de 4 notes, pardon,
de 4 notes,
qui rappelle paradoxalement un motif grégorien. Et pourtant, sa musique ne sonne pas « chrétienne », entre guillemets. Tout au contraire. Un parfum juif s'en dégage, entre guillemets, pour autant usage d'éléments traditionnels de la musique juive. Plusieurs théories ont été formulées à ce propos par des musicologues spécialisés dans la musique du XXe siècle, mais aucune d'elles n'explique de manière convaincante ce fait. La thèse d'Albert Weiser, New York 1918-1982, par exemple, rapprochant la musique de Bloch de celle de Palestrina.
Palestrina, qui est un compositeur phare de la polyphonie sacrée romaine.
Merci.
À la Renaissance, qui a été l'icône du mouvement de la contre-réforme. Alors, tu peux continuer.
Par un supposé passé commun du chant grégorien et du chant synagogal, a été plausible en son temps, mais depuis elle a été mise à l'écart par les musicologues actuels tels que Neil Levin,
qui a contesté cette hypothèse, voilà.
Sans faire allusion à la musique synagogale du 19e siècle, Bloch réussit à créer une atmosphère de recueillement semblable à cette musique-là, tout en utilisant par moments des moyens techniques proches de celle-ci, mais sans s'y référer clairement pour autant. Il fait un emploi très flexible du rythme tout en utilisant des durées simples, blanches, noires, croches et quelques figures pointées. Il donne une impression de grande liberté par changement permanent de mesure et par l'utilisation de nombreux points d'orgue, accélération et ralentissement.
Voilà, merci Léo pour ces quelques précisions. Et puis, vous avez entendu comment Bloch reprend les thèmes plus rythmés déjà utilisés dans sa première partie. Ceci rappelle notamment la musique la plus enjouée de l'un des célèbres opéras de Wagner pour culminer donc cette sublime sanctification avec des sonorités grandioses et une rythmique bouleversante. Je vous propose d'écouter la suite, la deuxième partie de ces deuxièmes volets et de la sanctification.
Thank you.
et on peut parler de quelque chose de sublime, de magnifique. Tu as vu l'accélération, Léo, qui produit ici.
Ouais, ouais.
Et c'est absolument remarquable. Mais ce n'est pas fini. Sans plus nous attarder sur d'autres détails, je propose à présent à notre public, à nos auditeurs, d'entendre les débuts de la troisième partie. On croit avoir déjà tout entendu au niveau des nouveautés, des surprises musicales liées au texte sacré hébraïque. Mais cette troisième partie qui va venir maintenant, merveilleusement inspirée et un crescendo des émotions qui se succèdent, nous surprend encore et encore avec des nouvelles variations, toujours sur le thème grégorien déjà entendu depuis le début de l'œuvre. Écoutons donc le début de la troisième partie du service sacré intitulé « Silent Devotion and Response » et qui correspond à la suite du texte de la prière des sanctifications intercalée par un sublime prélude instrumental qui rappelle l'introduction de l'œuvre. Signalons ici que la section chorale qui suit immédiatement cette section et qui ouvre la troisième partie, est la seule de l'œuvre qui est présentée a cappella, c'est-à-dire sans accompagnement instrumental, les chœurs chantent tout seuls, et elle permet des performances chorales de concert en tant que morceau détaché. Il s'agit de Yihyu Leratzon. On écoute le début de la troisième partie. Voilà, nous avons entendu à peu près la moitié de ce troisième volet, de cette troisième partie, comment il l'appelle. On a expliqué, n'est-ce pas Léo, qu'il y avait une introduction instrumentale, que tu aimes bien, j'ai l'impression.
Oui, ouais, je l'aime bien. Ouais.
Voilà, et qui sert d'introduction donc à Yule Rodson, la partie chorale a cappella. Et puis ensuite, une fois que le chœur termine son intervention et sans accompagnement instrumental, l'orchestre revient et on entend de nouveau, effectivement, la partie du cantor avec une nouvelle prière qui s'appelle Seu Shehorim, que nous avons eu déjà l'occasion de présenter avec d'autres versions musicales. Et là, l'énergie se met de nouveau en place et on entend la fougue, toute la puissance de cette musique qui met en valeur ces textes exaltés de la Bible, des textes qui sont utilisés, bien sûr, pour et l'office. Et on approche petit à petit à des parties de plus en plus rapides. Et après, c'est Seu Shehorim, on entend de nouveau un interlude instrumental.
Ouais.
Tu as vu, hein? Et donc, les auditeurs ne le savent pas, mais ils peuvent se demander, mais pourquoi tellement de musique instrumentale? Qu'est-ce qu'il vient faire dans l'office? Et puis, il faut regarder la partition pour savoir qu'il s'agit de la sortie des rouleaux de la loi. Dans la partition d'édition anglaise, il est marqué « Taking the scroll from the ark ». On prend, et à ce moment-là, la Torah, les rouleaux de la loi, pour les sortir et les poser sur l'almémor et faire la lecture de la Torah hebdomadaire, parce qu'il s'agit bien d'un office de samedi matin. Et ensuite, on a écouté donc le début de la section suivante qui s'appelle « Toro Tzivo Lono Moshe », et qui est une partie justement qui va précéder cette lecture de la Torah. Tu voulais faire des commentaires, Léo? Tu voulais dire quelque chose?
Oui, sur la partition, la partie qui est a cappella,
oui.
J'ai remarqué qu'il y a quand même un accompagnement, il me semble.
Oui, l'accompagnement est écrit sur la partition,
ouais, voilà.
Mais c'est un accompagnement qui sert uniquement à faire répéter les chœurs, ou le piano qui est utilisé pour la répétition double et les parties chorales pour avoir un soutien. Mais idéalement, il faut le faire a cappella, comme ces chœurs le font magnifiquement bien. Rappelons qu'il s'agit de la version de Zubin Mehta, avec à la tête de l'Orchestre Philharmonique d'Israël, et un chœur américain, un chœur de New York, très célèbre, et donc avec le soliste Thomas Hampson, qui est un grand baryton d'opéra. Et je propose à présent d'écouter la deuxième partie de cette troisième volet, qui va donc compléter cette section, et on va entendre après la sortie des rouleaux de la loi, de nouveau la prière du Shema Israël, qu'on a déjà entendu et qui apparaît plusieurs fois à l'office. Et comme la partie précédente, ça se termine dans la joie et l'allégresse avec la procession de la Torah. On écoute.
Oh!
comme nous l'avons fait pour Salomon et Rossi, nous allons consacrer une troisième émission à ces chefs-d'œuvre d'Ernest Bloch, quand il y a tant de choses à dire et tant à écouter qu'il est difficile de s'en passer. Je vous attends donc alors pour notre prochaine émission la semaine prochaine, toujours en compagnie de mon fils Léo qui partage avec nous son enthousiasme devant la découverte permanente de notre patrimoine musical hébraïque dans tout ce qu'il compte des meilleurs dans notre riche répertoire. Je vous dis alors merci de votre écoute attentive et à la prochaine. Merci Léo.
Au revoir.
Oh.